Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment mettre en place l'open innovation dans votre entreprise. Tout d'abord, essayons de comprendre le dilemme qui existe dès lors qu'on parle d'innovation ouverte. Et commençons par les peurs à surmonter. Lorsque je parle d'open innovation autour de moi, je constate que pour la plupart d'entre nous, la tentation de coopérer est forte, mais les peurs restent tenaces. Tout d'abord, la peur de se faire piquer son idée, tout simplement, et que quelqu'un d'autre en profite, mais aussi la peur de perdre le contrôle du projet. Si vous voulez, d'un côté, on est encouragé à se protéger pour préserver son territoire, et de l'autre, à coopérer pour en conquérir de nouveau. Bref, pour beaucoup d'entre nous, il semble difficile de trouver le bon équilibre. Et lorsque les réticences sont plus fortes que les potentielles opportunités que pourrait offrir une coopération, eh bien la démarche devient pour le coup contre-intuitive. D'autant plus qu'il faut bien dire, il n'est pas forcément simple d'innover sur la base de l'idée de quelqu'un d'autre. Vous avez sans doute déjà ressenti qu'il y a au fond de chacun d'entre nous un sentiment de satisfaction personnelle dès lors qu'une de nos idées est valorisée, évidemment, ça touche l'estime de soi. En réalité, face aux enjeux de la complexité du monde, on se rend bien compte qu'il est nécessaire de s'ouvrir pour innover. Il est difficile de résoudre certains problèmes tout seul. On ne peut plus innover en vase clos, chacun dans son coin. Le challenge est donc de favoriser l'innovation ouverte dans un cadre serein où les peurs s'estompent. C'est la raison pour laquelle il est intéressant d'identifier tous les leviers possibles pour s'inscrire dans cette démarche d'open innovation et identifier ce que l'on peut en attendre. Par contre, il faut bien se rendre compte que chaque entreprise a son histoire et sa manière de fonctionner. C'est pourquoi il est important de choisir le modèle d'ouverture qui convient le mieux et ainsi instaurer une culture d'innovation propice aux coopérations. Voyons ensemble maintenant ce qu'est vraiment l'open innovation. Il faut tout d'abord parler du changement de contexte. Jusque dans les années 70, les entreprises vivaient plutôt dans un monde d'innovation fermé, entre guillemets. Elles innovaient essentiellement en interne, en intégrant toutes les compétences, et cherchaient plutôt à protéger leurs innovations en les maintenant confidentielles. En fait, chacun développait ses technologies sans vraiment faire l'effort d'assimiler des innovations provenant de l'extérieur. Il faut dire que tout le monde fonctionnait de la même manière, ce qui rendait plus difficile l'identification d'opportunités. C'est Henry Chesbrough, professeur à l'université de Berkeley, qui a popularisé en 2003 le terme d'open innovation dans son livre intitulé justement « Open Innovation ». Il explique dans ce livre comment la révolution de l'information a rendu la connaissance beaucoup plus fluide, notamment grâce au numérique. On peut citer par exemple les plateformes collaboratives, les intranets, les réseaux sociaux, etc., etc. Il observe aussi que la croissance du capital risque a créé une pression vraiment forte et durable en faveur d'une commercialisation rapide des technologies existantes. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, quels sont les enjeux de l'innovation ouverte? Il ne vous a pas échappé que le cycle de vie de l'innovation est de plus en plus court et la concurrence de plus en plus rude. Vous pouvez voir sur ce diagramme, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, mais qu'il est bon de rappeler, le temps d'adoption d'une innovation pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Évidemment, tous les secteurs n'évoluent pas de la même vitesse, c'est clair, mais la tendance reste la même, ça s'accélère. Chaque entreprise est donc contrainte à innover en permanence dans un monde de plus en plus imprévisible. Et en même temps, les crises successives ont fait que les entreprises ne peuvent plus se permettre d'avoir des équipes internes de R&D aussi étoffées qu'auparavant. Coopérer est devenu une histoire de survie. D'autant plus que la forte activité des startups participe aussi à secouer le cocotier, entre guillemets. Du fait de leur agilité, clairement, et de leur capacité à intégrer les technologies, eh bien elles deviennent des actrices de plus en plus importantes. Bref, dans ce contexte où tout se complexifie et s'accélère, il vaut mieux être rapide et souple sur ses appuis pour réussir à s'adapter. voyez, c'est un peu à l'image d'un basketteur hein, qui a besoin d'être souple sur ses appuis pour pouvoir eh bien, réagir très rapidement hein, par rapport au contexte et puis réaliser un shoot dans de bonnes conditions et marquer un panier. Eh bien, l'Open Innovation propose des solutions face à ces enjeux. Alors, quels sont les avantages de l'Open Innovation ? Tout d'abord, il faut rappeler que le partage de la connaissance et le fait de collaborer favorisent les synergies. C'est une ressource essentielle dans le processus créatif. Plus votre connaissance est grande, plus vous savez faire apparaître de nouvelles connexions et de nouvelles opportunités. C'est ce qui permettra de faire 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire associer deux idées pour en faire naître une troisième encore plus forte. Et c'est bien utile pour conquérir de nouveaux marchés. En ouvrant son entreprise à l'intérieur et à l'extérieur, on décloisonne les processus linéaires de création de valeur pour en multiplier l'efficacité. Ça permet plusieurs choses. Tout d'abord, réduire les coûts R&D, mais aussi, ce qui n'est pas rien, de partager les risques, puis de créer de nouveaux challenges motivants pour les équipes, et enfin, favoriser l'épanouissement au travail, car il est toujours plus agréable de réussir en équipe. Évidemment, il y a aussi des limites dans l'innovation ouverte. Il est utile de ne pas se refermer sur soi, donc ça on l'a bien compris, mais il ne faut pas être naïf non plus. Chacun est ouvert, certes, mais pas totalement. Dites-vous que dans l'open innovation, toutes les données ne circulent pas, tout simplement car certaines sont stratégiques pour l'entreprise. Et en réalité, ce n'est pas forcément un frein, il faut juste le prendre en compte. Par ailleurs, la vitesse des uns n'est pas forcément celle des autres, ce qui peut d'ailleurs faire naître certaines frustrations. Et c'est d'autant plus le cas lorsque les entités qui collaborent sont de tailles très différentes. Vous voyez, une start-up en mode « Zodiac » entre guillemets sera souvent en rogne contre la lenteur du processus de prise de décision d'une grande entreprise qui, elle, se déplace avec l'inertie d'un paquebot. On observe aussi que l'innovation est souvent une histoire de femmes et d'hommes. De ce fait, vous voyez, dès lors qu'il y a un turnover trop important, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, eh bien, ça peut pénaliser la coopération. Mais la limite sans doute la plus importante, c'est celle de la propriété industrielle. Il faut dire que la démarche d'ouverture va à l'encontre du modèle d'innovation traditionnelle qui s'est construit sur les brevets et le secret. C'est la raison pour laquelle il est capital de bien contractualiser la collaboration pour que les choses soient claires dès le début. Vous voyez, il est vraiment important de clarifier ça avant, car le flou et le doute ne favorisent pas vraiment la coopération. Abordons maintenant un point essentiel, c'est l'état d'esprit pour se lancer dans l'open innovation. Le premier principe est de donner pour recevoir. Comme dans toute relation, on peut souvent avoir l'impression d'un déséquilibre de l'apport et de qui contrôle quoi, et cela peut nuire à la coopération si on sous-estime ce sentiment. En réalité, la solution réside avant tout dans l'implication totale de part et d'autre. Il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut vraiment travailler en confiance et dépasser l'idée que l'on donne plus que l'autre, car ce n'est qu'une histoire de point de vue. Ensuite, il faut accepter l'incertitude. Nous vivons dans un monde incertain et c'est pas toujours facile à vivre, mais en réalité, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Il faut se dire qu'au-delà des risques, il existe aussi des opportunités, car rien n'est écrit à l'avance. Et justement, l'open innovation favorise l'émergence de ces opportunités. Par ailleurs, il ne faut pas se lancer dans l'open innovation avec des idées toutes faites sur la solution. Au contraire, il est préférable de se laisser imprégner de nouvelles données et de nouvelles manières de faire. Si vous voulez, la magie opère dès lors que l'on s'ouvre au changement. Voyons ensemble maintenant 7 moyens pour favoriser l'innovation ouverte. Évidemment, vous vous en doutez, plusieurs voies sont possibles. Il est important de comprendre qu'il existe autant de façons de mettre en œuvre une innovation ouverte qu'il y a d'organisations finalement. La première chose à faire est de choisir celle qui peut s'adapter le mieux à votre entreprise. Mais vous voyez, l'important dans la démarche est de chercher à augmenter la surface de contact avec l'extérieur pour accéder à de nouvelles ressources et générer des opportunités, et aussi d'augmenter la porosité pour faciliter les échanges et opérer une transformation. Pour vous permettre d'y voir plus clair, voici un tour d'horizon des solutions qui s'offrent à vous. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne déjà une bonne idée des possibilités et des moyens dont vous disposez. Le premier moyen dont vous disposez est de développer l'open innovation en interne. Vous pouvez tout d'abord créer des échanges entre les services, puis organiser des séances de créativité multimétiers, ensuite mettre en place une boîte à idées et la faire vivre, par exemple. Vous pouvez aussi organiser une journée où vous faites le travail d'un de vos collègues. Or, c'est toujours très instructif de faire ça. Et enfin, vous pouvez aussi favoriser l'intrapreneuriat pour transformer des idées innovantes en véritables projets portés par des collaborateurs. Et puis vous voyez, certains grands groupes vont jusqu'à mettre en place un système d'incubateur pour permettre à un collaborateur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième moyen dont vous disposez est de développer la relation avec vos fournisseurs. Pour ça, vous pouvez par exemple inviter vos fournisseurs et leur présenter vos axes d'innovation. Alors pour ça, il est préférable d'initier ces rencontres au plus tôt dans les projets pour faciliter l'intégration. Vous pouvez aussi visiter vos fournisseurs et favoriser les échanges pour faire apparaître de nouvelles opportunités. En tout cas, vous voyez, dites-vous que vos fournisseurs innovent aussi de plus en plus, alors autant que ça vous soit utile. Le troisième moyen dont vous disposez est de développer la relation avec vos clients et les utilisateurs de vos produits. Vous pouvez tout d'abord impliquer vos clients dans la création de vos produits, puis tester vos produits avec eux sur le terrain directement. À ce titre, je vous invite vraiment à consulter le site de co-création de Decathlon, car d'une part, il est vraiment très intéressant et vraiment bien fait. Vous pouvez même y participer en fonction de vos centres d'intérêt pour vivre cette expérience de l'intérieur. Vous verrez, ça vous donnera forcément des idées. Vous pouvez aussi créer des rencontres avec les utilisateurs extrêmes. Alors qu'est-ce que j'entends par utilisateurs extrêmes ? Eh bien, ce sont tous ceux qui ont du mal à utiliser vos produits ou qui l'utilisent exceptionnellement, or par exemple les débutants ou des personnes avec un handicap, ceux qui l'utilisent intensément et en maîtrisent l'usage, or ce sont vraiment les pros, mais aussi ceux qui essayent d'améliorer vos produits avec l'esprit maker. Et puis on retrouve également tous ceux qui abordent l'usage avec un état d'esprit vraiment très différent de vos clients habituels. Donc vous voyez, il est toujours intéressant d'observer ces gens-là, de les questionner, et puis de savoir vraiment ce qui les intéresse. Ils auront forcément des choses à vous raconter qui vous intéresseront et qui seront utiles et applicables pour l'ensemble de vos clients. Le quatrième moyen est de créer une relation avec une école ou une université. Pour ça, il existe des solutions toutes simples, comme proposer des sujets de stage ou de projets de fin d'études, ou alors construire avec des enseignants des sujets de travaux pratiques, vous voyez, des sujets qui s'étalent sur un trimestre ou un semestre, et ça on n'y pense pas forcément. Vous pouvez aussi solliciter des labos qui ont réalisé des travaux dans votre domaine, et vous pouvez aussi vous appuyer sur les SAT, les sociétés d'accélération du transfert de technologie, qui créent un lien, si vous voulez, entre les chercheurs en université et le monde de l'entreprise. Le cinquième moyen dont vous disposez est de participer à un événement. Par exemple, participer à un hackathon ou un maker camp. Vous pouvez aussi en organiser un au sein de votre entreprise, ou alors organiser un concours sous la forme d'un appel à projet ou d'un challenge d'idées. Le sixième moyen dont vous disposez est de coopérer avec un tiers-lieu ou une communauté. Vous pouvez par exemple travailler en coworking pour provoquer des rencontres improbables, ou tout simplement sous-traiter une étude à l'équipe d'un Fab Lab ou participer à un atelier de créativité. Et enfin, le septième moyen dont vous disposez est de développer un partenariat avec une autre entreprise. Vous pouvez par exemple créer ce partenariat avec une start-up en lien avec votre projet. Pour un grand groupe, cette démarche s'appelle le corporate venture. C'est la mise en relation d'entreprises d'un même secteur, mais de tailles différentes afin de favoriser l'émergence d'innovations. C'est par exemple le groupe PSA qui établit un partenariat stratégique avec une start-up qui travaille sur la pile à combustible. Vous pouvez aussi rejoindre un projet collaboratif sur un thème qui a du sens pour vous. Il est intéressant aussi de rencontrer des inventeurs pour éventuellement acheter un brevet ou une licence, voyez, il peut toujours y avoir des opportunités de ce côté-là. Et enfin, quelque chose que vous faites sans doute déjà, c'est de créer des rencontres sur des salons professionnels pour imaginer de nouveaux partenariats. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de passer à l'action. Comme souvent, le plus dur est de faire le premier pas. Mais en réalité, il ne faut pas vous poser trop de questions. Dites-vous que vous êtes vraiment très loin d'imaginer tout ce que pourra vous apporter l'Open Innovation. Ce que je vous propose, c'est de programmer au moins 3 actions parmi la vingtaine de propositions que nous avons vues dans ce cours. La bonne démarche est de vous lancer et adapter les choses en cours de route. Rappelez-vous que c'est en marchant que l'on apprend à marcher. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite une bonne programmation pour vos 3 actions et à bientôt dans la prochaine vidéo.